Bonsoir et bienvenue. Je voudrais commencer par remercier la librairie Mola d'avoir organisé cette rencontre donc autour du livre de Christophe Bouton sur les traces du temps. Donc le livre, pour le présenter très brièvement, avant de donner la parole à Christophe, se propose de rouvrir à nouveau frais un certain nombre de questions tout à fait fondamentales sur le temps et sa nature. Le temps existe-t-il? Existe-t-il réellement ou est-il simplement le reflet de la subjectivité humaine? Faut-il dire que seul le présent existe ou faut-il reconnaître également un certain mode d'existence au passé et au futur? Le temps passe-t-il? Si oui, dans quel sens? Voilà un petit échantillon des questions qui sont abordées dans le livre. Alors, je te passerai la parole dans quelques instants pour que tu nous dises voilà ce qui t'a amené à t'engager dans ce projet très ambitieux de remettre à plat la discussion autour de ces questions. Je commencerai peut-être juste par voilà indiquer moi ce qui, à mon sens, sont peut-être vraiment les deux grandes forces de cet ouvrage qui est vraiment, à mon sens, magistral. La première force, c'est que tu réussis à t'adresser à tous les publics. C'est-à-dire, et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà reconnu pour tes contributions précédentes, comme l'accélération de l'histoire ou le temps de l'urgence. C'est-à-dire que par ton style, tu arrives à la fois à voilà, faire comprendre à un lecteur qui n'est pas nécessairement spécialiste de ces questions. De philosophie du temps, voilà quel est l'état de l'art sur la question, pourquoi ces problèmes se posent, et en même temps tu fais une contribution tout à fait majeure, tout à fait originale à ces débats sur la nature du temps. Et d'autre part, et ça je pense qu'on y reviendra dans la discussion, comme tu l'expliques très bien au début du livre, il y a en fait deux grandes traditions de pensée à propos du temps. En philosophie, qui serait plutôt d'un côté une tradition dite continentale, où les figures peut-être de Hegel et de Heidegger seraient les principales, et puis de l'autre côté, ce que tu appelles dans le livre la philosophy of time, donc de tradition plutôt anglo-saxonne, plutôt analytique, donc qui s'est développée au XXe siècle, notamment en réaction à certains développements scientifiques. Et alors, ce sont deux traditions qui généralement ne se parlent pas vraiment entre elles. Et toi, parce que tu as un pied dans chacune, tu arrives à les mettre en dialogue et aussi en fait à en critiquer et à en remettre en question les présupposés et disons l'appareil théorique de chacune de ces traditions, précisément parce que tu arrives à les regarder aussi de l'autre côté. Et ça, je pense que c'est vraiment aussi quelque chose qui est une contribution majeure au débat contemporain sur la philosophie du temps. Donc je te passe maintenant la parole pour que tu nous expliques peut-être voilà qu'est-ce qui à ton sens a rendu nécessaire de voilà rouvrir ces questions sur le temps et voilà quelles ont été les pistes que tu as suivies pendant cette enquête.
Merci à Thomas pour ta présentation. Bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement je me suis toujours intéressé à la question du temps depuis mes études de philosophie, pour plein de raisons, mais notamment parce que c'était un concept très, très présent, très concret dans la vie quotidienne, surtout d'ailleurs dans notre monde moderne où on compte beaucoup avec le temps, on cherche à l'économiser, à gagner du temps, etc. Et en même temps, parce que quand on cherche à définir le temps, c'est un concept qui résiste, donc il y a une sorte de challenge intellectuel à essayer de le comprendre, qui d'ailleurs amène souvent à avoir beaucoup d'humilité par rapport à l'objet philosophique en général, parce que voilà, on essaye de comprendre, d'analyser, mais souvent il y a des choses qui résistent, des apories. Donc c'est un exercice intellectuel qui m'a plu et j'avais étudié la question du temps en m'appuyant sur les auteurs de la philosophie continentale, enfin dite continentale, et notamment des auteurs de la tradition allemande, Kant, Hegel, et puis phénoménologique, outre Heidegger, Sartre, Ricoeur. Donc j'avais un certain nombre d'idées, de réponses à la question « qu'est-ce que le temps ?» et je m'étais dit « il faut quand même que je regarde un peu plus en détail la philosophie des sciences et la philosophie anglo-saxonne » parce que je savais qu'il y avait des auteurs qui avaient travaillé sur le sujet. Et donc je me suis dit « je vais... » J'avais un peu de temps devant moi pour voyager, donc j'ai été passer quelques mois à un Center for Time à l'université de Sydney. C'était en 2012, donc était une université où il y avait un centre de recherche entièrement dédié à la question du temps. Et donc je me suis dit, je vais passer quelques mois là-bas, je vais m'immerger, et puis ensuite. Je pourrais tirer quelques enseignements et écrire un livre, une contribution sur le sujet. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai découvert ce que tu as évoqué, la philosophy of time, qui est un domaine qui est apparu dans le courant du XXe siècle, en réaction d'ailleurs en partie à l'évolution des sciences, de la science moderne, notamment de la théorie de la relativité, mais c'est aussi un domaine où il y a beaucoup d'analyses de concepts, de théories, et ça m'a complètement dépaysé parce que j'ai découvert des théories que j'ignorais, des approches différentes, et notamment une théorie qui s'appelle la théorie de l'univers bloc, qui dit, en résumant un peu, que l'univers est comme un bloc depuis le Big Bang, où tous les événements sont disposés dans l'espace-temps, une fois pour toutes, ce qui fait que on a l'impression que le temps s'écoule, mais en fait, c'est comme quand on regarde un film, il y a des images, mais tout est déjà écrit sur la pellicule. Donc là, finalement, pour cette théorie, les paroles que je suis en train de prononcer, notre séance de ce soir, est déjà dans l'espace-temps depuis le début de l'univers. Donc ça m'avait quand même impressionné, parce que je me suis dit... c'est très quand même contre-intuitif. Quels sont les arguments? Et alors à Sydney, il y avait beaucoup de partisans de cette théorie, et il y avait aussi, j'ai découvert, des théories adverses. Donc j'ai découvert que la philosophy of time était un champ de bataille avec des théories concurrentes. Donc il y avait la théorie dite du présentisme, qui dit que seul le présent existe. Voilà. Et donc le passé et l'avenir sont relégués en quelque sorte dans le néant. Donc pour moi, la théorie de l'univers bloc était insatisfaisante parce que j'avais quand même le sentiment que dans le monde, il y a de l'incertitude, de l'indétermination, de la contingence. Par exemple, ce soir, je suis très heureux d'être là. D'ailleurs, merci encore de l'invitation à Mola. Mais j'aurais pu avoir un accident, un problème et ne pas être là. Pour moi, il y a, même si j'ai tout fait pour être là, évidemment, mais il y a des imprévus, des impondérables. Et donc, l'idée que cet événement soit inscrit dans l'avenir depuis le début de l'univers me semble quand même poser, enfin, au moins des interrogations. Mais la théorie inverse qui dit que seul le présent existe me convenait pas, parce que je me dis, mais non, le passé existe aussi, et d'une certaine manière, l'avenir sous forme de possible. Et donc, il y a d'autres théories qui étaient en concurrence, mais j'ai eu une sorte de choc, oui, intellectuel. Très positif aussi, parce que j'ai eu un très bon accueil aussi des collègues là-bas. Et donc finalement, quand je suis reparti avec beaucoup plus de questions que de réponses, ce qui est plutôt de toute façon bon signe en philosophie. Et au lieu de mettre un ou deux ans à écrire le livre que je voulais faire, le temps de digérer tout ça, de faire beaucoup de lectures, de remettre le travail sur le métier, finalement, j'ai mis plus de 10 ans à écrire ce livre. Qui d'ailleurs n'est pas non plus définitif et achevé. À un moment donné, il faut s'arrêter, mettre un point, mais sans doute qu'il y a beaucoup de choses de perfectibles. Mais le résultat, c'est que ce livre, effectivement, intègre de fait la tradition de philosophie européenne, continentale, que je fais remonter à des auteurs comme Aristote ou Saint-Augustin, qui pour moi sont très importants à intégré dans la question du temps, et puis la philosophie du temps anglo-saxonne que j'essaye de présenter en même temps de discuter à l'intérieur desquels j'essaye de me positionner. Et finalement, le livre n'est pas une synthèse de tout ça, je dirais. J'ai plutôt pris ces traditions comme des boîtes à outils conceptuels. Et quand j'avais besoin de travailler un problème, une aporie, ben j'utilisais tel auteur ou tel aspect. Ce qui fait que Dans ce livre, il y a à la fois une présentation quand même de ces philosophies que je positionne, que, dont je trace un peu la géographie, et puis des contributions plus personnelles où j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice. Et ça a donné ce, ce travail.
Alors pour rentrer un petit peu dans l'ouvrage et justement sur voilà la contribution personnelle aussi que tu apportes. Donc effectivement, tu utilises ces traditions comme des boîtes à outils conceptuels, mais tu en remets en question aussi certains présupposés ou certaines œillères au fond.
Oui.
Il me semble que moi, il y a deux grands présupposés que tu remets en cause, qui seraient d'une part, alors c'est peut-être un présupposé que l'on retrouvera plus dans la tradition continentale, qui serait de lier trop étroitement le temps à la subjectivité humaine et à la conscience, d'un côté. Donc, une forme de subjectivisme, disons, trop rapide à propos du temps. Ça serait la première erreur, peut-être, que tu diagnostiques, ou le premier faux point de départ. Et puis, de l'autre côté, ce que tu appelles donc le primat ontologique du présent. Et alors là, que tu détectes plutôt dans la tradition de la philosophie of time. Ce qui peut paraître peut-être à première vue un peu surprenant, puisque tu nous as expliqué que voilà, ce qui domine dans cette tradition, c'est la vision de l'univers bloc, où tout est en un sens déjà là, et où donc le présent, enfin ce que nous appelons le présent, l'instant présent, n'est au fond qu'un moment parmi d'autres dans la totalité de ce qui existe. Mais selon toi, il y a quand même derrière cette image, en fait, quelque chose qui relève de ce que tu appelles le primat ontologique du présent. Donc, voilà, c'est une invitation à voilà, en dire un petit peu plus sur ce que tu vois comme ces faux points de départ,
oui.
ces erreurs fondamentales.
Oui, alors, en effet, dans le premier cas, il y a beaucoup d'auteurs de la tradition dite continentale, qui conçoivent le temps comme une forme de la subjectivité humaine, comme une sorte de manière dont l'homme se représente le monde. C'est le cas notamment de Kant, donc, qui écrit à la fin du XVIIIe siècle, qui dit que le temps est une des deux formes avec l'espace de la subjectivité humaine. Et il y a des phrases où il dit « si on fait abstraction de la sensibilité de l'être humain, de sa subjectivité, le temps n'est rien. Et donc, finalement, c'est comme une sorte de prisme à travers lequel on voit le monde. Et le monde, d'ailleurs, en lui-même, pour Kant, est complètement inconnaissable. Donc, c'est une position idéaliste et qui me semblait problématique parce que Kant, c'est en même temps... Donc je prends l'exemple de Kant, mais il y a d'autres philosophes. C'est un auteur qui a eu conscience du temps profond, qui a écrit une histoire générale de la nature en 1754, où il essaye de reconstituer l'origine de l'univers à partir des lois de Newton. Et donc il imagine une échelle de temps extrêmement longue à une époque où on imaginait, donc au milieu du XVIIIe siècle, encore que l'histoire de la Terre, l'histoire de l'univers... se compter à partir des générations de l'Ancien Testament, on est arrivé à environ 6000 ans. Et Kant dit non, il faut raisonner plutôt en centaines de milliers, voire en millions d'années, pour penser l'origine de l'univers. Il pense aussi que la Terre, évidemment, est plus récente, et que sur Terre, l'être humain est apparu... Enfin, qu'au début, la Terre était inhabitable, hein, s'il n'y avait que de l'eau, et donc que l'être humain est apparu ultérieurement. Donc ça veut dire que si on fait cette histoire de l'univers, le temps et l'espace ont existé avant l'apparition de l'homme. Donc si on relie le temps à la subjectivité humaine, en faisant une sorte de faculté, il y a une contradiction avec l'idée que le temps, au moins comme succession, a existé, enfin n'a pas attendu l'apparition de l'espèce humaine sur Terre pour exister. Et donc, finalement, en prenant en compte cette dimension de ce qu'on appelle en géologie le temps profond, le fait qu'il y ait une histoire de la Terre qui est incommensurablement plus longue que l'histoire de notre espèce, de l'Homo sapiens, eh bien, je me suis dit, il faut avoir une approche réaliste du concept de temps qui dit que le temps est d'abord une structure du monde, une sorte de milieu ou de structure élémentaire de l'univers avec l'espace, avant d'être une forme de la subjectivité humaine, même si l'être humain a aussi une connaissance du temps, il a un sens du temps et de l'espace, bien sûr, mais il ne faut pas réduire le temps à cela, à quelque chose de proprement humain. Hein, donc c'est une approche que j'appelle réaliste, au sens où j'affirme que le temps existe indépendamment de l'être humain qui cherche à le connaître, à le comprendre. Je crois que si on place la durée de l'histoire de l'Homo sapiens, si on veut faire une image de la durée de l'histoire de l'Homo sapiens, c'est une tête d'épingle en haut de la tour Eiffel. Hein, et le reste, c'est l'histoire de la Terre, l'histoire de l'univers. Donc, finalement, j'ai pris cette approche-là en prenant le contre-pied, disons, d'une tradition idéaliste ou phénoménologique aussi, qui fait du temps une forme de la conscience, même si dans le dernier chapitre, j'étudie ce que j'appelle la temporalité. Je distingue le temps de la temporalité. La temporalité, c'est la forme que prend le temps pour l'être humain. Et ça, c'est un sujet important aussi qui a été beaucoup étudié par la phénoménologie. Et j'essaye d'en rendre compte dans le dernier chapitre. Mais pour moi, la temporalité présuppose le temps. Voilà, c'est pour ça que le chapitre sur l'être humain apparaît en dernier. Quant à la deuxième question, oui, je me suis rendu compte que on trouvait dans la tradition philosophique, d'ailleurs aussi bien continentale que analytique, ce que j'ai appelé le primat ontologique du présent, l'idée que le présent existerait plus que le passé et l'avenir, ou même dans ce qu'on voit dans le présentisme, c'est l'idée que seul le présent existe, et comme le passé et l'avenir ne sont pour l'avenir pas encore présents, et pour le passé n'est plus présent, si seul le présent existe, le passé et l'avenir tombent dans le néant, ils n'existent pas. Et alors, l'autre forme de primat ontologique du présent, c'est de penser les événements futurs sur le modèle du présent, ou les événements du passé sur le modèle du présent, de faire du présent une sorte de modèle ontologique qui permet de penser les trois dimensions du temps. Donc, une des directions que j'ai prises dans ce livre, c'est de contester ce primat du présent, en essayant de dire qu'est-ce qui se passe si on conçoit que le passé, le présent et le futur existent tout autant, mais de manière différente. Voilà. Et donc, j'ai essayé d'explorer cette piste. Alors, dans l'univers bloc, le passé, le présent et l'avenir existent de la même manière, puisque tout ce qui est avant le moment où je parle existe dans le bloc côté, dans la partie qui nous sépare du Big Bang. Et puis, tout ce qui va venir après, c'était un peu ce déterminisme qui me gêne dans l'univers bloc, existe déjà. Donc vos questions que vous allez poser tout à l'heure, elles sont déjà dans le bloc, mais on les connaît pas. On va les découvrir. Bon. Donc ça, moi, ça me semblait un peu problématique. Mais au moins le mérite de l'univers bloc, c'est qu'il y avait pas de primat ontologique du présent, comme tu le dis. Sinon, dans le fait que, disons, les événements sont quand même pensés sur le modèle du présent, c'est-à-dire comme des événements ou des choses qu'on peut entièrement connaître, qui sont données intégralement. Donc, j'avais quand même un soupçon de ce côté-là. Mais ce qui m'a intéressé, c'est de dire, voilà, le présent, le passé et le futur existent tout autant. C'est trois formes de l'existence. Donc, je prends l'image d'un triptyque. C'est comme un triptyque. Hein, vous avez trois volets. Il y a le présent au milieu, le passé et l'avenir de chaque côté. Et les trois volets du triptyque ont la même importance, la même existence, ils sont liés les uns aux autres. Simplement, les images qui sont dans ce triptyque, c'est-à-dire les modes d'être du passé, du présent et de l'avenir, sont différentes. C'est-à-dire le triptyque présente trois tableaux différents, et c'est ça que j'ai essayé de décrire. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la différence entre le futur et le présent, entre le présent et le passé? Alors, j'essaie de penser le futur à partir de la catégorie de possibilités, de puissance et de possibilités, le présent à partir de la présence et le passé à partir de la trace. Voilà. Et donc, du coup, trace, présence et puissance, j'ai les trois volets du triptyque et j'ai essayé de, voilà, de dérouler les conséquences de cette hypothèse pour voir vers où ça menait ne pas limiter l'existence du temps au seul présent et de pas non plus penser les trois dimensions du temps exactement sur le même modèle.
Alors on va revenir plus en détail sur les différents volets de ce triptyque. Mais pour rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire, voilà, une des choses qui est apparue dans ta réponse, c'est que c'est un aspect voilà, qui rend la question du temps particulièrement difficile, peut-être. C'est le fait que les sciences ont beaucoup à nous dire et à nous apprendre sur le temps, et qu'elles nous ont conduit aussi également donc à remettre en cause et à bouleverser nos conceptions philosophiques du temps. Donc tu l'as déjà évoqué à travers voilà, la découverte du temps profond au XVIIIe siècle, du temps géologique, etc. Si on regarde le XXe siècle, ça serait sans doute la théorie de la relativité qui est souvent considérée comme voilà, la théorie qui a le plus bouleversé notre conception du temps. Peut-être justement parce qu'elle viendrait, mais ça tu vas peut-être le critiquer, peut-être parce qu'elle viendrait justement renforcer cette idée d'un univers bloc où tout est déjà écrit, puisque la conséquence de la relativité étant notamment qu'il n'y a, il semble pas y avoir de présent absolu, ouais. Il semble pas y avoir de relation objective, de simultanéité dans le monde. C'est toujours relatif à un observateur. Alors voilà, quelles sont selon toi en fait les conséquences ou les conclusions, disons philosophiques, à tirer véritablement de la relativité et plus généralement de ce que les sciences, la physique, mais peut-être aussi d'autres sciences nous enseignent du temps.
Alors effectivement, l'un des aspects intéressants de la philosophie du temps anglo-saxonne, c'est vraiment de discuter la physique moderne et d'essayer d'en tirer des interprétations. Et alors, du coup, j'ai essayé d'étudier en détail au moins la relativité restreinte, donc 1905, pour voir si, enfin, quelles conclusions on pouvait en tirer par rapport à la question du temps, et d'essayer de voir si le lien aussi qui était souvent posé entre théorie de la relativité et la fameuse théorie de l'univers bloc. Et donc, ce que la théorie de la relativité remet en cause, déjà, c'est l'idée d'un présent absolu de l'univers, compris comme ce moment, l'idée que voilà, on serait dans ce moment présent maintenant et que tous les événements, tous les moments simultanés à ce moment présent aux quatre coins de l'univers formeraient une ligne qui séparerait le futur du passé et qui serait le présent. Donc ça suppose une simultanéité qui est définie de façon objective. Et ça, c'est vrai dans la physique de Newton. Hein, beaucoup, on a raisonné très longtemps comme ça. Hein, et ce que découvre Einstein, c'est que la simultanéité est relative aux observateurs et qu'il n'y a plus de simultanéité absolue. C'est-à-dire que la réalité de la simultanéité en physique est limitée en fait à la position des observateurs et il n'y a pas vraiment de réalité physique de la simultanéité. Bon. Alors. Ensuite, je me suis dit, le temps, c'est la simultanéité, oui, mais c'est aussi la succession. Et qu'en est-il de la succession? Donc la relation avant-après. Alors là, c'est plus compliqué parce que la relativité... Parce que moi, j'avais lu des physiciens qui disaient la relativité démontre que le temps n'existe plus. Ah bon? Mais en creusant, j'ai découvert que la succession, quand même, elle garde un sens dans la relativité. Et comme pour moi, la succession est une des caractéristiques du temps, c'est une des réponses à la question qu'est-ce que le temps, succession entre les moments, entre les événements, j'ai vu que à partir du moment où la succession est établie entre deux événements qui sont reliables par une relation de causalité, c'est-à-dire au moins par un rayon lumineux, bon, eh bien, cette succession est absolue. Ça veut dire que le début de cette conférence est situé avant la fin de cette conférence, cette présentation, voyez, c'est une relation de succession, et ça, c'est absolu. C'est aucun observateur ne peut contester ce point. Simplement, la durée de la présentation peut varier d'un observateur à l'autre. C'est vrai. Si on prend un observateur qui va à une vitesse proche de la lumière, pour lui, la présentation durera pas une heure, mais elle durera un peu moins longtemps et ça se mesure, etc. Mais il y aura quand même la succession. Ensuite, j'ai découvert que dans la relativité, il y avait une asymétrie entre le passé et l'avenir. C'est-à-dire que l'avenir, c'est l'ensemble des événements dont on... le passé, c'est l'ensemble des événements dont on peut avoir des informations, mais sur lesquels on ne peut pas agir. Et le futur, à l'inverse, c'est l'ensemble des événements sur lesquels on n'a pas d'informations, mais sur lesquels on peut agir, causalement. Donc, il y a une asymétrie entre le passé et l'avenir. Donc, finalement, le concept de temps est repensé, est modifié, mais n'est pas réduit à néant. Et alors, ce qui est, en revanche, important, c'est que le présent est toujours localisé à un point de l'univers. Et on doit toujours, en fait, raisonner en termes d'espace-temps. On ne peut pas séparer le temps de l'espace dans la relativité restreinte, mais aussi dans la relativité générale. Et c'est l'un des apports de la théorie de la relativité, outre la relativité de la simultanéité, le fait que le temps est indissociable de l'espace, ce qui implique de repenser les relations entre les deux concepts, ce que j'essaye de faire, même si mon livre n'est pas un livre de philosophie de la physique, c'est pas un livre de philosophie des sciences, je ne suis d'ailleurs pas philosophe des sciences de formation, j'ai lu beaucoup de travaux pour m'instruire sur le sujet de spécialiste, mais néanmoins, je voulais que mon livre prenne en compte ces nouveautés, ces éléments de la physique, non seulement de la théorie de la relativité, mais aussi de la mécanique quantique, parce que ce qui m'a intéressé dans cet autre aspect de la physique moderne, c'est-à-dire qui apparaît au début du XXe siècle, c'est qu'il y a un indéterminisme. En tout cas, l'une des interprétations de la mécanique quantique, c'est que l'interprétation des phénomènes n'est pas déterministe et que quand on fait une expérience, il y a plusieurs résultats possibles qui peuvent être mesurés de façon très précise par des probabilités. Donc c'est une science qui est d'une efficacité, prédictibilité extrêmement précise, mais qui prédit des probabilités. Et donc là, j'avais aussi un élément pour penser l'indétermination de l'avenir. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui me gênait dans l'univers bloc. Et j'en avais parlé à des collègues à Sydney, ils me disaient, mais je disais, mais comment on peut rendre compatible l'univers bloc et la mécanique quantique dans son indétermination? Alors ça se fait, mais au prix d'interprétations déterministes de la mécanique quantique, qui sont elles-mêmes sujets à débat, donc c'était aussi une difficulté. Donc c'est l'un des points de la question du temps, ce qui la rend difficile, c'est qu'elle est articulée en partie à l'histoire des sciences, et que cette histoire, elle évolue, et que quand on arrive à un point, à un moment donné, on est obligé de tenir compte de ces éléments, et c'est ce que j'ai essayé de faire à mon échelle.
Alors, tu l'avais mentionné il y a quelques minutes, si on essayait de caractériser ce qui est vraiment l'idée fondamentale du livre, c'est donc qu'il faut reconnaître un mode d'existence réel, non seulement au présent, mais également au futur et au passé. Mais en même temps, ces deux modalités du temps que sont le présent, que sont le passé et le futur, n'existent pas de la même manière, tu l'as dit, que le présent. Et donc le livre se présente comme une exploration pour les trois volets du triptyque du mode d'existence particulier des événements futurs, des événements présents et des événements passé. Alors là, dans ce que tu disais de la mécanique quantique, tu as déjà évoqué quelques aspects de la manière dont tu penses le mode d'existence des événements futurs. C'est-à-dire que pour toi, il est vraiment absolument central que le futur soit indéterminé. C'est ça qui rend en fait possible l'existence d'un futur. Et il y a deux autres affirmations voilà, dans ce que tu dis du futur qui sont assez frappantes, je trouve, qui sont d'une part le fait que le futur pour toi est pluriel, qu'il implique en quelque sorte une pluralité d'événements incompatibles les uns avec les autres. C'est ça qui en fait son mode d'existence particulier. Et puis, par ailleurs, tu as cette formule qu'un événement naît deux fois. Et que c'est ça qu'il faut aussi comprendre pour bien comprendre ce que c'est que le mode d'existence d'un événement futur. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que tu entends par ces deux affirmations ? Que le futur, d'un côté, est pluriel et que l'événement naît deux fois, une fois dans le futur et une fois dans le présent.
Oui, alors, en effet, je vais prendre un exemple simple pour expliquer comment je vois les choses. J'ai essayé de penser le temps en prenant pour fil conducteur le concept d'événement, pris au sens extrêmement large. Donc, quelque chose qui se produit dans le monde, un changement ou un ensemble de changements dans le monde. Et je me suis dit que tout événement du monde était d'abord futur, présent, puis passé, et suivait en cela trois modes d'existence différents. Et alors, c'est un exemple facile mais parlant. Cette présentation que je suis en train de faire, elle a d'abord été future parce qu'on l'a programmée. Maintenant elle est présente et tout à l'heure elle appartiendra au passé. On a encore du temps devant nous. Bon, et donc j'ai essayé de montrer que chaque stade de l'événement, c'est comme un cheminement que l'événement doit faire dans le temps, mais c'est en même temps, je dirais, ce que j'appelle un passage obligé. Il doit être futur, présent, puis passé, sachant qu'évidemment, le temps durant lequel un événement est futur va varier en fonction de plein de cas de figure. Ça peut être très court, ça peut être très long quand c'est une éclipse annoncée des années à l'avance. Bon. Donc là, si on prend... Et en plus, je me suis dit, en prenant des exemples simples comme ça, déjà, si on arrive à comprendre ça, ensuite, on peut peut-être monter en généralité et prendre d'autres types d'événements. Mais là, si on prend cet événement simple, de cette présentation, quand elle est future, alors elle a une indétermination. Je me suis fait plaisir de faire un petit jeu de mots en travaillant le français. L'événement futur est indéterminé, l'événement présent est déterminé et l'événement passé est terminé. Voilà, on enlève au fur et à mesure. Donc, l'événement futur est indéterminé, c'est-à-dire que déjà, il peut ne pas se produire. C'est la contingence de l'avenir. Je me suis dit, si on veut prendre l'avenir en tant qu'avenir, essayons de le penser dans son indétermination. Donc, dire que l'événement futur est indéterminé, c'est-à-dire que tout événement futur, tant qu'il est futur, peut ne pas se produire. Alors ensuite, j'entre pas dans les détails, mais j'essaie de penser qu'il y a des degrés de probabilité variables. Il y a des événements qui sont extrêmement probables, d'autres beaucoup moins. Bon. Mais si vous prenez cette intervention, effectivement, elle a d'abord été future, donc elle a été possible, et elle a été possible au sens où elle aurait pu ne pas se produire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de la contingence dans cette conception-là que j'ai du temps, et ça rend compte du fait que des événements peuvent ne pas se produire pour plein de raisons. Donc ça, c'est le premier sens de l'indétermination. Ensuite, j'ai un deuxième sens un peu plus radical qui dit que l'événement est indéterminé au sens où, quand il est futur, il se rapproche du présent. C'est-à-dire cet événement... Si d'ailleurs je prends la fin de mon intervention, hein, elle est future, mais elle va être de moins en moins future. Et à un moment donné, ça sera la fin de la présentation et elle sera présente puis passée. Donc, quels que soient les événements qu'on considère, on a cette idée de ce passage temporel. Et l'autre sens de l'indétermination, c'est le fait, je me suis demandé si l'événement en se rapprochant du présent, il n'était pas de plus en plus déterminé. Au début, c'est un projet un peu vague. Par exemple, Mola m'a invité, j'ai dit oui, puis ensuite on a choisi le modérateur, donc l'événement est un peu plus déterminé, puis ensuite on a commencé à préparer un peu quelques questions, et puis maintenant que c'est présent, c'est plus déterminé. Mais on peut très bien imaginer que l'événement se charge en détermination à mesure qu'il arrive. Et donc c'est le deuxième sens de l'indétermination, vous voyez, c'est la contingence. Et du coup, si on pense la contingence de l'événement, c'est-à-dire que l'événement peut ne pas se produire, eh bien, on envisage un scénario futur où l'événement ne se produit pas. Ça veut dire, par exemple, je sais pas, moi, je me casse le pied en sortant du tramway, je suis mobilisé, et donc c'est un scénario futur qui finalement se réalise. Donc, qui fait que l'avenir n'est pas une seule ligne, mais une arborescence de possibilités. Et quand on dit qu'un événement est contingent, ça veut dire qu'il existe une autre branche, au moins une autre branche de possible, où il n'est pas. Où cet événement ne se produit pas pour plein de raisons. Donc, avec ce modèle, on rencontre de la contingence. Et alors, l'idée d'une double naissance de l'événement m'est venue de l'idée que il y a des philosophes qui pensent, ils sont assez minoritaires dans la philosophie du temps, que les événements futurs sont d'abord possibles, mais ils pensent le possible comme créé de toute éternité avec le Big Bang. C'est la théorie d'un philosophe qui s'appelle Storrs McCall, qui s'appelle la théorie de l'univers rétrécissant. C'est-à-dire que au départ, l'univers est comme un arbre immense avec tous les possibles qui se produisent, enfin qui sont déjà présents. Puis, au fur et à mesure que l'univers avance dans son histoire, il y a des branches de possibles qui tombent. C'est toutes les possibilités qui ne sont pas sélectionnées. Donc, il rétrécit. Mais dans ce modèle, ça veut dire que cette présentation est présente à titre de possible depuis le Big Bang. Et moi, je me suis dit, sachant que ce modèle admet l'idée que, en revanche, la présentation peut ne pas avoir lieu. Il y a la contingence, mais il y a cette idée du possible qui préexiste comme ça. Moi, je me suis dit que les possibilités, elles sont créées au fur et à mesure de l'existence, du déroulé de l'histoire du monde. Et je considère que la possibilité de cette présentation n'existait pas avant la publication de ce livre, et en tout cas, certainement pas avant l'idée que j'ai conçu ce livre. Et je pense que donc cette présentation est née comme possible du jour où la direction de Mola a eu l'idée de m'inviter. Et maintenant, la deuxième naissance de l'événement, c'est que la présentation a lieu maintenant. Voyez, mais je pense que il faut penser la naissance des événements d'abord dans le futur et dans le présent. C'est ça que je veux dire avec la double naissance de l'événement.
Mais alors, en même temps, quand ils naissent dans le présent, ils disparaissent aussitôt. Ils naissent pour aussitôt mourir. Donc, si on suit ce procès, ce que tu appelles ce procès temporel des événements du futur pour aller vers le présent, puis ensuite dans le passé, et si on s'arrête maintenant sur ce deuxième moment du procès qui est la présence de l'événement ou son basculement dans le présent, il y a ce côté au fond paradoxal qui est que c'est complètement évanescent parce que ça bascule aussitôt vers le passé. Donc, comment est-ce que tu as essayé de saisir un petit peu cette évanescence du présent? C'est quoi au fond le mode d'existence des événements présents s'ils sont amenés à naître pour aussitôt mourir et basculer dans le passé?
C'est un aspect du temps qui m'a toujours fasciné, qui est très simple, on peut en faire l'expérience à tout moment, et que j'ai essayé de capturer avec un gros concept philosophique, qui est le concept de négativité de Hegel, qui dit que tout événement présent bascule directement dans le non-présent du passé. Donc là, les paroles que je dis, c'est des événements au sens très simple du terme, des micro-événements, c'est-à-dire des changements du monde. Et à peine je les ai dites, ces paroles, elles sont passées. Alors, je me suis dit, dans une théorie du temps, il faut quand même rendre compte de cette expérience du passage du temps, de l'évanescence, en fait, plutôt des événements présents. Et c'est ce que j'appelle la négativité du temps, transformation du présent, non pas en néant, parce que pour moi, le passé existe, mais en non-présent. Et Hegel a cette formule, hein, le maintenant a pour être de n'être déjà plus quand il est. Voilà, c'est... Mais il y a beaucoup de poètes qui ont parlé hein, de l'évanescence du présent, j'en cite un certain nombre, c'est un thème assez, assez classique. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi au cœur de l'expérience du temps et qui vient du fait aussi qu'il y a quelque chose de dynamique dans ce mouvement des événements dans le temps. Hein. C'est-à-dire qu'ils se rapprochent du futur, ils entrent dans le présent, à peine ils sont dans le présent, qu'ils disparaissent dans le passé, et après, ils ne cessent de s'éloigner dans le passé. C'est-à-dire que la distance d'un événement passé avec le présent, elle ne cesse de s'augmenter. D'ailleurs, on peut la mesurer en minutes, en heures, en années. Et c'est quelque chose de, quand même de fascinant qui est au cœur de l'expérience du temps et que j'ai essayé de décrire à l'aide de ce concept de négativité. C'est pour bon le concept plus courant, c'est l'idée du passage. Alors, je parle pas du passage du temps, mais du passage des événements dans le temps. Sachant que notre chance en tant qu'être vivant, c'est que tout n'est pas complètement évanescent. Il y a les choses, hein, je parle du monde des choses et des événements, et les choses présentes, comme cette table devant nous, elles ont une certaine durée, elles subsistent, et c'est le propre de la présence de subsister et d'être le support d'événements qui arrivent au niveau macroscopique et microscopique. Et donc, il y a présence des choses, contrebalance un peu l'évanescence des événements.
Mmh. Alors, maintenant qu'on a... On bascule dans le troisième volet du triptyque temporel, dans ce passage de la présence au passé. Alors là, un concept qui, lorsque tu commences à aborder ce troisième volet du triptyque, un concept qui devient tout à fait central, c'est celui de trace. Mmh. C'est vraiment voilà, un des grands... une des grandes innovations du livre que de mettre au centre la compréhension philosophique du passé cette notion de trace. C'est pas un hasard si on la retrouve également dans le titre de l'ouvrage. Donc ma question là, c'est pourquoi est-ce que selon toi, alors déjà qu'est-ce qu'il recouvre ce concept de trace et pourquoi selon toi il est si essentiel pour penser, disons, le mode d'existence spécifique du passé et des événements passés.
Alors en effet, je me suis intéressé à cette notion de trace parce que j'ai remarqué que toutes les sciences qui portent sur le passé, que ça soit la géologie, la préhistoire, la paléontologie, une partie de la théorie de l'évolution évidemment, les sciences historiques, utilisaient de façon d'ailleurs souvent plus ou moins thématisée, la notion de trace. Au fond, le passé est ce que les traces nous en disent. Et ce qui fonde les propositions scientifiques sur le passé, ce sont des traces. Et je me suis dit, est-ce que la trace n'est pas simplement une information sur le passé, mais le mode d'être du passé? Et là, je comprends la trace comme une relation entre une chose présente et une chose ou des événements qui sont dans le passé. Et c'est une relation objective parce qu'elle est fondée sur des lois de causalité, typiquement la trace d'un animal dans la neige. Alors ici, je ne parle pas des traces écrites, et j'essaye de penser les traces plutôt comme, même si je parle aussi des traces au sens sémiologique, mais au départ, j'essaye de penser la trace comme une sorte d'effet du passé, un effet présent d'événements, causes relevant, enfin appartenant au passé, une relation entre le présent et le passé, et c'est cette relation que le chercheur va suivre, va reconstituer pour avoir un discours de vérité sur le passé. C'est pour alors je me suis j'ai une section sur les fossiles. J'ai toujours été très très intéressé par les fossiles, par la préhistoire. Et ça remonte à mon enfance. Hein. Quand j'allais chez le médecin, ma mère me traînait. J'allais chaque semaine chez un médecin. Et alors pour me convaincre, elle m'offrait une figurine préhistorique. Donc j'avais toute une collection. Et donc avec la figurine, j'avais déjà l'accès au temps profond, à la paléontologie, à la préhistoire. Et après, la figure qui dit figurine préhistorique dit fossile. Et je suis beaucoup intéressé aux fossiles. Et pour moi, le fossile, c'est une trace, c'est-à-dire typiquement, même s'il n'y a pas que le fossile, évidemment, voilà, une chose présente qui renvoie au passé selon des lois de la nature qui permettent de reconstituer un certain nombre de choses. Hein. Et je me suis dit, avec la trace, on peut penser un rapport au passé qui évite les deux positions que je voulais, qui me semblaient intenables ou problématiques. D'abord, la position du présentiste qui dit que le passé n'existe pas. Ce qui me semble un usage irréfléchi du priméontologique du présent. Et l'erreur inverse, pour moi, c'est l'idée que le passé existerait en lui-même comme un monde à part, indépendamment des traces du présent. Moi, j'essaye de dire que voilà, les traces sont le mode d'être du passé, ce qui permet à la fois d'y accéder, de le connaître, mais aussi ce qui lui permet de subsister. Et dans l'image du triptyque, il y a trois panneaux qui sont liés ensemble, hein, et il y a trace nomme la relation entre le panneau central et le panneau du passé, une relation entre le présent et le passé. Et alors ensuite, on peut développer les exemples de traces qui vont à l'infini. Il y a des traces visibles, invisibles. Ce qui m'a beaucoup intrigué aussi, c'est que les traces sont destructibles. Donc je me suis demandé qu'est-ce qui reste quand du passé, quand les traces porteuses du passé elles-mêmes ont disparu. Donc ça, c'est aussi ça fait partie des zones du livre un peu où j'explore. Je propose des hypothèses. Je parle de nuit du passé pour nommer le statut des événements qui ont eu lieu, mais qui sont plus reliés au présent par des traces. Mais par ailleurs, pour reprendre l'image ou l'exemple de tout à l'heure, l'événement est futur, présent et passé, et le mode d'être de l'événement passé, ce qui lui permet de continuer à exister dans le passé, c'est qu'il laisse des traces dans le présent. Donc cette présentation, une fois qu'elle sera terminée, ben, elle va laisser des traces. Elle existera dans le passé sur le mode des traces qu'elle a laissées. Qu'est-ce que vont être ces traces? Ben, il y en aura quand même un certain nombre, ben, grâce à vous déjà, toutes les traces psychiques des souvenirs qu'on a. Et puis aussi les traces, parce que c'est enregistré. Donc l'être humain a une grande ingéniosité pour fabriquer des traces. Ensuite, bien ces traces, elles vont évoluer elles-mêmes et l'événement va s'éloigner de plus en plus dans le passé. Mais voilà, il aura ce mode d'être de la trace qui est un mode d'être, mais qui est différent du mode d'être qu'on a maintenant, qui est de vivre cet événement au présent. C'est pas la même chose que de le revoir sous forme de vidéo ou de s'en souvenir. Je pense que les souvenirs sont moins précis, mais ce sont des traces aussi du passé très importantes.
Alors, je reviens à un thème que tu as abordé en passant un moment dans ta réponse, qui est le thème du passage du temps. Il y a tout un ensemble de métaphores qu'on utilise pour conceptualiser le temps. Alors, il y a d'une part la métaphore donc, du passage, du temps qui passe, comme le temps a passé, etc. Et puis il y a aussi une autre métaphore qui revient peut-être plus dans les discussions philosophiques, mais qui est aussi très présente, qui est la métaphore de la flèche du temps, avec l'idée que ce qui distingue le temps de l'espace, c'est que le temps a une flèche, une direction, et que le temps, du coup, coule ou va. Alors en général, on dit qu'il va du passé vers le futur, qu'il coule tel un fleuve nous emportant du passé vers le futur. Alors, est-ce que selon toi, ces métaphores sont des métaphores utiles pour penser la dynamique spécifique du temps?
Oui, alors la métaphore du flux, elle est ancienne, hein, elle remonte au moins à Héraclite, hein, à Pantarei, tout s'écoule, ce qui est une manière de nommer le temps du monde, et puis le passage du temps, la comparaison avec une rivière, un fleuve est très, 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 très ancienne. Et alors, ce que j'ai essayé de penser sur le passage du temps, c'est que, et ça, bon, c'est des choses aussi que j'avais entendues ou lues chez Étienne Klein, qui m'a beaucoup appris sur la question du rapport de la physique au temps, mais aussi sur le concept de temps. Parler de passage du temps, c'est problématique au sens où tout ce qui passe, que ça soit un tramway, une voiture, un fleuve, passe nécessairement dans le temps, dans l'espace et dans le temps. Hein, il faut le temps pour penser le passage des choses, puisqu'il y a une succession, hein, c'est, voilà, des positions dans l'espace à des moments différents du temps, c'est ça le passage. Donc si on parle de passage du temps, on fait du temps une chose qui passe dans le temps, et donc il faut un deuxième temps dans lequel passe le premier. Donc on est pris dans une régression à l'infini. D'ailleurs, c'est une question que Kant aussi avait déjà vue, et concluait du coup que le temps doit être permanent, parce que s'il passe, il faut faire appel à un deuxième temps, et pour lui, c'est pas possible. Alors dans la littérature anglo-saxonne, il y a des philosophes qui disent, mais on peut envisager un deuxième temps, ce qu'ils appellent « hyper time », bon. Mais c'est qu'une partie, et les auteurs sont assez peu nombreux pour s'engager dans cette hypothèse qui est quand même assez problématique, parce que ce deuxième temps, s'il passe lui-même, il va avoir besoin d'un troisième. Et là, on est pris dans la régression à l'infini. Donc, pour éviter ça, je me suis dit, le temps ne passe pas parce que le passage est une catégorie, un concept qui s'applique aux choses, et pas au temps lui-même. Donc, il y avait une erreur de catégorie. En revanche, l'idée de passage du temps n'est pas complètement absurde. C'est simplement, pour moi, ça nomme le passage des événements dans le temps, le fameux mouvement des événements du futur vers le présent et ensuite le passé. Donc, si on dit que les événements passent dans le temps, au sens où je l'ai expliqué, on n'a pas besoin de faire appel à un deuxième temps pour penser le procès, le mouvement des événements dans le temps. Donc on échappe à la régression à l'infini, qui est l'une des nombreuses apories, d'ailleurs, soit dit en passant, auxquelles nous exposent les réflexions sur le temps. Hein. C'est un peu comme une excursion en montagne. Il y a des passages escarpés avec des précipices. Bon, il faut essayer de ne pas tomber. Il y a des crevasses. Bon, je dramatise un peu, c'est une image. Mais voilà, c'est vrai que... Et donc, cette régression à l'infini, elle est quand même assez dangereuse. Et donc, et du coup, si on dit que l'événement va du futur vers le passé en passant par le présent, on a une réponse aussi à cette idée de flèche du temps qui, pour moi, est orientée du futur vers le passé. Alors ensuite, il y a un sens à parler d'une flèche du temps du côté de l'avenir, parce qu'on a souvent le réflexe de dire que le temps va vers l'avenir, c'est si on lie le temps à la causalité, parce que la cause, enfin l'effet de la cause est dans l'avenir, l'effet de la cause est après la cause, hein, la cause a, il y a une flèche causale du temps, ce que j'appelle, qui est orientée vers l'avenir. Mais elle est combinée avec la flèche des événements qui va de l'avenir vers le passé. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Et pour l'expliquer, je prends un exemple très simple de causalité. Vous jetez une pierre sur une vitre. Eh bien, donc du point de vue causal, l'effet de l'explosion de la vitre est situé après, dans le futur, de l'événement jeter la pierre, mais on peut dire que l'événement brille de la pierre, il est d'abord futur, au moment où vous avez l'intention de vous viser votre vitre, il est présent quand la vitre explose, et ensuite il est passé. Donc flèche causale du temps et flèche temporelle des événements se combinent en fait, et permet de donner un contenu conceptuel à cette image très répandue, la flèche du temps.
Alors, je reviens maintenant sur cette idée que, pour bien comprendre le temps, il en faut une approche réaliste, donc qui conçoit vraiment le temps comme une structure du monde, des choses et des événements, et pas simplement un produit de la subjectivité humaine. Cela étant dit, dans le dernier chapitre du livre, tu reviens en fait à cette question de ce que tu appelles la temporalité, et donc de l'expérience proprement humaine du temps, avec l'idée que voilà, le parcours que tu as fait, où tu as étudié le temps comme une structure objective du monde, va permettre d'éclairer en fait à nouveau frais un certain nombre d'aspects de la temporalité humaine. Donc, est-ce que tu pourrais voilà nous en dire un petit peu, nous dire un petit peu voilà quelles sont les conclusions en fait auxquelles tu arrives sur la sur l'aspect proprement humain de l'expérience du temps voilà à la lumière de ton enquête.
Oui, pour moi c'était important de parler quand même de la temporalité humaine qui est un cas particulier de la temporalité des êtres du monde. Mais qui nous concerne particulièrement puisque nous sommes nous-mêmes des êtres humains et nous avons notre temporalité. Alors mon idée, c'est de dire si le passé, le présent et l'avenir existent au même titre mais différemment, il faut penser l'être humain, il faut penser son existence comme déployé dans le passé, le présent et l'avenir. Et de ce point de vue-là, j'avais été très frappé par ma lecture de Proust, de La recherche du temps perdu. Vous savez, à la fin, il dit qu'il veut décrire dans son livre les êtres, les personnages, comme des points minuscules dans l'espace, mais des êtres démesurés dans le temps, qui sont comme juchés sur des échasses, les échasses du temps, qui correspondent à toute l'histoire de leur vie, que Proust va retracer ou le narrateur dans La recherche. Et donc j'ai essayé de penser l'être humain comme doué de ce que j'appelle une aura temporelle avec présence, trace et puissance. Donc la présence de l'être humain, bah, c'est son corps, ce petit point dans l'immensité de l'espace. Mais évidemment, un être humain se réduit pas à son corps. Il a des traces, ça va être tous ses souvenirs, son histoire, mais aussi d'ailleurs des traces corporelles qui sont ces échasses plus ou moins longues en fonction de l'âge qu'on a, d'ailleurs qui renvoient à l'histoire personnelle d'un individu, mais aussi à son histoire familiale, qui peut remonter sur plusieurs générations. Hein, je donnerai comme exemple à ce sujet le très beau livre de Laurent Mauvignier, La maison vide, où il retrace, alors de façon en partie fictive, l'histoire de sa famille sur quatre générations, mais on voit que ce passé, c'est pas seulement le passé de ses ancêtres, c'est son passé. Hein. Ça fait partie de l'aura temporelle du narrateur. Et je me suis dit que il faut penser aussi l'être humain qui a ce que j'appelle un horizon d'y attendre, c'est-à-dire que dans son existence même, il y a une part future, une part avenir, hein, qui correspondent à toutes ses capacités, à toutes ses possibilités, qui sont aussi en arborescence et qui vont différer en fonction des personnes, en fonction des situations sociales, historiques. Mais il y a pour l'être humain un ensemble de traces que j'appelle la rémanence et un horizon d'attente qui est constitutif de l'existence de chacun, avec cette difficulté que seule la partie présente d'un être humain est visible. C'est le corps. Mais la partie future et passé, qui pour moi font partie de son être même, sont complètement invisibles de l'extérieur. Alors, pour celui qui est le porteur de son avenir et de son futur, il y a une visibilité beaucoup plus grande. Mais malgré tout, voilà, c'est un peu une sorte de mystère de l'existence humaine, d'être présente, visible, tangible, sur une partie relativement réduite, si on compare à toute la dimension du passé et de l'avenir qui est constitutif de tout être humain, et que j'ai essayé d'explorer dans le dernier chapitre.
Mmh. Oui. Bien, le temps a passé. Cette rencontre, voilà, qui était indéterminée au départ, déterminée ensuite, s'apprête à se terminer. Donc, je pense qu'il est temps de remercier chaleureusement Christophe Bouton pour la présentation de son très beau livre.